Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison d'Onward Fashion. Je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier très sincèrement d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager nos contenus de bouche à oreille sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse. C'est extrêmement valorisant pour notre travail et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer. Alors merci. Si vous avez une problématique spécifique que vous aimeriez qu'on aborde ou que vous souhaitez nous suggérer des invités, n'hésitez pas à écrire à l'adresse morning@thegoodgoods.fr pour nous en faire part. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon aujourd'hui de rendre visible un podcast est encore de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison et d'ici là, je vous souhaite un très bel été. Comment métamorphoser l'enseignement de mode? Quels objectifs fixer et quelles pratiques transmettre en matière de durabilité dans l'industrie de la mode et du luxe? Ces questions ont été soulevées par Andréane Lemieux, docteur en génie industriel et professeur chargé de l'ensemble des initiatives liées au développement durable au sein de l'IFM, Institut français de la mode. Andréane est également présidente de la chaire Sustainability IFM Caring, qui a été créée en novembre 2019, et qui propose un certificat de développement durable dont la première promotion vient d'être diplômée. Le but, associer les forces académiques et industrielles sans attendre que les étudiants sortent de l'école. Le 31 mai 2021, les 35 étudiants ont présenté 16 projets à contribution sur lesquels ils travaillaient depuis le mois de novembre. Parmi les membres du jury, des grandes marques, des groupes, mais aussi des institutions, tous convaincus que si la mode a souvent porté de grands enjeux sociétaux, ils sont aujourd'hui planétaires. Tous déterminés à continuer à travailler dans une industrie créative et passionnante, tout en la rendant plus vertueuse. Je laisse Andréane nous raconter. Bonne écoute! Bonjour Andréane.
Bonjour Victoire.
Merci de me recevoir à l'IFM. J'aimerais que tu commences par te présenter s'il te plaît.
Oui, donc je m'appelle Andréane Lemieux, je suis canadienne, en France quand même depuis quelques temps maintenant. Et puis je dirige actuellement la chaire Sustainability IFM Caring à l'Institut français de la mode.
Alors avant ça, tu as un parcours dans l'industrie qui est tout autre. Tu peux nous parler un petit peu du cheminement ?
Oui, donc moi, c'est vrai que je suis dans l'industrie depuis maintenant plus de 15 ans. Je disais 15 ans, mais c'est plus de 15 ans maintenant. J'ai démarré, j'ai fait une école de mode à Montréal avec une spécialisation en marketing, ce qui m'a amenée à travailler pour des grosses marques américaines comme Jones New York, Nine West, Evan Picone. Et en parallèle donc de mes fonctions en marketing opérationnel, j'apprenais le mandarin. C'était au début des années 2000 avec une vraie montée en puissance de la Chine à ce moment-là. Donc, j'y voyais autant d'un point de vue industriel d'ailleurs que d'un point de vue marché. Donc, j'y voyais une opportunité de grandir au sein de l'industrie. C'était une carte supplémentaire. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à partir ensuite en Chine directement pour parfaire mon mandarin, pour enfin vraiment apprendre à parler chinois. Et donc, de là, j'ai été recrutée par une entreprise chinoise qui avait besoin de, disons, d'une passerelle entre ses clients qui étaient américains et européens et ses manufactures en Chine. Donc, il y avait cet œil esthétique et puis cette capacité linguistique de voguer entre ces différentes parties prenantes. Donc j'ai fait donc de la coordination de développement produit avec nos clients, donc les créateurs, les marketeurs et les merchandisers en usine. Je suis restée 2 ans en Chine et je suis ensuite rentrée à Montréal et j'ai pris un poste d'acheteuse pour un grand magasin en prêt-à-porter qui est l'équivalent ici des Galeries Lafayette. Et c'est vrai qu'après un certain moment, je me suis posé beaucoup de questions sur l'orientation de ma carrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un retour à l'école. Vous allez voir, l'académie, l'école a toujours été un peu un fil rouge dans tout mon parcours. Et donc, j'ai décidé de retourner à l'école pour devenir ingénieur industriel. Donc, j'ai fait une mise à niveau à Polytechnique Montréal pour en génie industriel, ce qui m'a amené en cycle supérieur, en maîtrise et ensuite au doctorat. Et c'est vraiment lors du doctorat que on a monté une co-tutelle avec les arts et métiers ici à Paris pour venir mener mes recherches ici en France qui ont été financées par Cartier, le joaillier. Et Cartier, à l'époque, avait une vraie problématique, un besoin de transformation, des objectifs opérationnels qui étaient de réduire le time to market, donc une vraie transformation des organisations, des processus, des méthodes. Et donc, j'ai mené tout mon doctorat, toute ma recherche sur cette méthodologie de transformation au sein de toutes les entités de chez Cartier, donc lunettes, joaillerie, horlogerie, pour finalement prendre la direction du développement de produits et de l'innovation pour la division lunettes. J'ai mené donc opérationnellement cette transformation donc auprès de mes équipes et on était ensuite amené à vivre d'autres transformations, notamment culturelles, puisque la division lunettes a été rachetée par le groupe Kering, qui avait une business unit donc en Italie. Donc on passait de la France à l'Italie. Et à ce moment-là, bon, j'ai eu à nouveau à me poser des questions sur ma carrière. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait mon doctorat, moi, ça avait toujours été un des objectifs. L'objectif, c'était deux jours de revenir vers l'académie et de transmettre tout mon bagage, mes connaissances. Et j'ai enseigné un peu tout le temps en parallèle de mes fonctions dans l'industrie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, c'est le bon moment. Donc, je me relance du côté académique. Mais là, cette fois-ci, je prends toutes mes connaissances que j'ai sur la transformation des organisations, ce que ça nécessite en termes de gestion du changement, en termes d'accompagnement. Mais là, je le fais pour une transformation qui me tient vraiment à cœur. Et là, ben, c'est celle du développement durable. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais d'un point de vue personnel, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans des associations côté social, que ce soit au Québec, la Société Saint-Vincent de Paul, Moisson Québec. Je m'investis dans d'autres associations ici en France. Et c'est vrai que pour moi, ce que je connaissais de la mode, j'ai fait beaucoup de maillons de la chaîne de valeur. J'avais ce besoin de mettre à profit toutes mes connaissances. Et c'est vrai que l'académie, ben, c'est un levier aussi de potentiel d'action, et c'est un peu ce qui a nourri la création de la charte Sustainability FM Kering. C'est qu'on se dit que si on réussit à transmettre les bonnes valeurs, les bonnes clés de compréhension du sujet, ben, il y a un potentiel d'accélération énorme. Et en fait, bon, la vie est bien faite. Moi, je crois beaucoup aux alignements des planètes, aux rencontres. Quand on est bien dans ses bottes et qu'on travaille fort, enfin, les choses se placent, et l'IFM a été placée sur mon chemin. Enfin, on la vie organisée qu'on se rend compte. Et en fait, à ce moment-là, Kering, le groupe Kering et l'Institut français de la mode avaient cette volonté de monter une charte de recherche, donc à la fois pour l'éducation, mais aussi pour des contributions scientifiques. Donc il y avait quand même un besoin de... le poste devait être pourvu par quelqu'un qui pouvait à la fois diriger de la recherche scientifique, mais aussi qui avait cette expérience assez forte dans l'industrie pour pouvoir assurer cette fonction, la compréhension de l'industrie. Donc, c'est vrai que c'était un peu le mouton à 5 pattes, mais c'était complètement aligné avec ce que moi je voulais faire et ce que j'avais comme background. Donc, évidemment, ça s'est fait, et ça s'est fait très rapidement. C'est comme ça que j'ai rejoint l'IFM il y a maintenant 2 ans.
Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'état des lieux de l'enseignement ici à l'IFM au moment où tu es arrivée et nous expliquer, donc avant même la chaire donc, qui existe, c'était concomitant à peu près en 2019,
oui,
mais
oui.
La façon, ta vision en fait de l'organisation de cet enseignement.
Donc l'enseignement, il y avait quand même depuis quelques années des enseignements autour du développement durable. C'est pas le développement durable n'est pas arrivé avec la chaire, mais c'est vrai que un peu à l'image d'ailleurs de comment c'était perçu par nos étudiants, c'était un peu des options. C'était une semaine dédiée au développement durable, une semaine de conférences, mais on n'avait pas une approche, j'ai envie de dire académique du sujet pour vraiment aller plus loin et le prendre en considération au sein de l'ensemble des programmes. Donc il y avait ce manque, et ce manque était bien identifié par la direction de l'école. Donc, le premier objectif, alors, il faut dire qu'on a créé la chaire, elle a été lancée officiellement le 14 novembre 2019. Donc, en plein milieu d'une année académique où tous les programmes sont déjà ficelés depuis bien longtemps. Donc, c'est vrai que la première année, j'ai eu à enfoncer quand même quelques portes pour intégrer l'ensemble des programmes, sachant que c'était la première fois qu'il y avait un professeur transverse dans l'école. L'école de son historique était assez cloisonnée par programme, avec un programme de management, un programme de créa, un programme exécutif. Et tout ça est en pleine transformation aujourd'hui, même depuis quelques temps. Mais c'est vrai que lorsque je suis arrivée, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui venait en transverse. Et j'ai enfoncé les portes pour, au moins la première année, donner un minimum de cours donc à l'ensemble des étudiants. C'était vraiment une introduction au développement durable. C'est quoi d'un point de vue entreprise, c'est quoi la définition, pourquoi on en est là, quels sont les enjeux planétaires relatifs au développement durable. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif. Et notre priorité, c'était les étudiants, puisque les étudiants, chez nous, la majorité des programmes, alors pas les bachelors qui sont sur 3 ans, mais sinon, ils sont avec nous 1 an et ensuite en stage. Donc, si on voulait toucher la promo 19-20, il fallait vite s'activer pour donner des cours. Et c'est ce que l'on a fait. On a réussi à mettre en œuvre des workshops, des conférences, et là, tout le monde a vécu la même chose. Il y a le COVID qui est arrivé. Donc, on a passé ça en remote, on a adapté. Mais j'ai envie de dire que la vraie première année représentative, c'est celle qu'on est en train de terminer là, en ce moment. Et c'est là où on a mis en place vraiment le cœur de ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire d'intégrer le développement durable, mais de manière conséquente dans l'ensemble des programmes, avec un module obligatoire de base que tous les étudiants, les 1000 étudiants ont aujourd'hui à l'IFM. D'ailleurs, tous les étudiants ont eu Andran le mieux en cours cette année. Donc, que ce soit d'ailleurs en virtuel ou en présentiel, on a joué dès qu'on pouvait, on essayait de le faire. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif. Et ensuite, on a à l'issue de ce module obligatoire, dans chaque programme, selon les compétences, selon les possibilités de projet, on a mis en place donc, des workshops plus adaptés aux fonctions que vont prendre nos étudiants demain. Donc, à la fois avec des start-up, avec des plus grandes organisations, des marques, des associations. Donc ça, c'est dans le cadre vraiment de nos programmes, j'ai envie de dire, classiques. Ensuite, on va parler peut-être plus en détail de programmes de la chaire.
Oui. Alors, avant ça, je voudrais que tu me dises, parce que tu parles de transversalité auprès des étudiants, qui sont les gens qui sont responsables de cet enseignement? Parce que toi, tu as donné cours à tout le monde, mais j'imagine que tu n'as pas fait tous les cours. Est-ce que tu es allé chercher des intervenants experts extérieurs? Et où est-ce que ça a nécessité aussi la formation du staff, des professeurs fixes de l'IFM? Parce que j'imagine que de la même manière que quand on commence à s'intéresser à la RSE dans une entreprise, on n'a pas la science infuse, ce sont des gens qui nécessitent aussi, enfin qui ont besoin d'une formation.
Oui, donc c'est vrai que les premiers cours de base, c'est moi qui les donne. Et effectivement, après, je me repose sur des experts qui maîtrisent beaucoup mieux que moi les sujets. Et j'en apprends moi-même à tous les cours parce que j'assiste à tous les intervenants, à tous les cours des intervenants externes que j'invite. Donc, on a eu il y a eu différents modes de fonctionnement. C'est vrai qu'avec Kering, j'ai la chance de travailler avec des équipes extraordinaires et qui offre beaucoup de temps aussi aux étudiants. Donc, on a vraiment une Hélène Crowley, par exemple, qui intervient auprès de nos étudiants sur la biodiversité et le lien de notre industrie avec elle. Ensuite, selon les sujets, donc on fait intervenir sous différents prismes de vue, d'ailleurs, et ça, on le verra aussi dans le certificat. Souvent, sur un même sujet, j'aime beaucoup inviter une association, un scientifique, une marque pour avoir différents prises. Donc ça s'est fait de différentes manières. Et au sein du staff ici à l'école, donc certains professeurs, alors il y a toujours une question de niveau de maturité aussi du sujet. Donc on a des professeurs qui sont aussi engagés sur les thématiques du développement durable, évidemment. Et tout de suite, des liens se sont créés et j'ai regardé les cours, je les ai accompagnés pour voir comment on pouvait bonifier, ne serait-ce que aussi par le réseau de la chaire. Donc ça s'est fait des deux façons, j'ai envie de dire, avec un apport d'une expertise externe, qu'elle soit au sein des marques, déjà du groupe Kering, ou un accompagnement plus spécifique, soit au niveau des professeurs textiles, par exemple, ou de supply chain ou de développement de collection.
D'accord. Donc au-delà de l'enseignement que tu as un petit peu transformé à ton arrivée, dans le cadre de la chaire, il y a le certificat de développement durable qui a été développé, donc qui est un diplôme en plus, qui est accessible à différents niveaux d'études, donc Bac plus 3, Master, etc., dans lequel des marques du groupe viennent proposer des problématiques et chercher des solutions auprès de, notamment, de groupes de travaux étudiants. Je voudrais savoir, dans un premier temps, dans quel état d'esprit arrivent ces marques ? Est-ce que c'est une forme de compagnonnage, c'est-à-dire de formation des plus jeunes, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un aveu d'humilité sur « bon ben, voilà les problématiques qu'on rencontre, voilà nos limites, qu'est-ce que la jeune génération, les têtes fraîches et la science peuvent nous apporter ?»
Alors, il y a deux choses. Effectivement, donc on a ce certificat qui est un diplôme additionnel. Hein. C'est vraiment en plus de leur programme et diplôme pour lequel ils sont inscrits à l'IFM. Donc, c'est en cours du soir. Et donc, on se voit tous les mardis soirs avec ces 35 étudiants qui ont été sélectionnés parmi les plus de 100 applicants. Ces mardis soirs, donc on reçoit différents acteurs qui viennent, effectivement, donc des marques, des groupes, des assos, des consultants, enfin, selon les sujets, viennent partager effectivement la réalité. On a eu la chance d'avoir des invités qui ont vraiment ouvert leurs livres et donné la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est pas toujours simple, en fait, de mener cette transformation, parce que puisqu'elle est profonde et qu'elle repose vraiment sur un système de valeurs. Donc, on n'est pas que sur des outils, ça va beaucoup plus loin comme transformation. Et donc, il y a eu ce partage avec les étudiants. Et effectivement, au-delà de ces cours, ils ont quand même à caractère académique, parce que c'était pas que des témoignages. On venait quand même vraiment transmettre et traduire opérationnellement comment ça se passe sur les différents sujets. Donc, que ce soit au niveau du module de stratégie, des enjeux planétaires ou de la chaîne de valeur. Donc, il y avait ce partage. Après, il y a le projet à contribution, donc, qui est un des objectifs du certificat. C'est qu'on ne voulait pas rester que dans la théorie, donc que dans ces mardis soirs qui sont très, très riches, puisque effectivement il y avait ce partage où les intervenants venaient partager, mais avaient ce retour de discussion aussi, de questions, de commentaires de ces 35 étudiants qui sont très motivés. Donc ça, c'était toujours très riche. Mais au-delà de ça, nous, on ne voulait pas rester que là. On voulait envoyer nos étudiants sur le terrain. En fait, on se disait que le potentiel d'action, on n'avait pas besoin d'attendre qu'ils intègrent l'industrie derrière le certificat. On pouvait d'ores et déjà changer des choses. D'ailleurs, le motto du certificat, c'est « Let's go change the world ». Tous les mardis soirs, on terminait en « Let's go change the world ». Et même les étudiants me disaient « J'étais pas capable de fermer mon ordinateur tant que tu n'avais pas dit « OK, now, let's go change the world ». C'était un peu cette... Bon, donc, sur le terrain, effectivement, il y a eu deux choses. Donc, on a organisé une genre de soirée de bourse à projet qu'on a appelée Sustainable Entrepreneurship et en se disant que, en fait, c'est pas que des entrepreneurs, on n'est pas entrepreneur que lorsqu'on monte une start-up, on peut tout à fait être entrepreneur au sein de marques, de groupes, d'associations dès lors où on mène un projet, et là, dans notre cas, à caractère durable. Et donc, cette soirée s'est faite en décembre où différents acteurs de la mode, que ce soit voilà, des associations à caractère social, au niveau des réfugiés afghans, on a une association comme ça, où on avait identifié qu'il y avait des savoir-faire de couture au sein de des résidents de ce centre d'accueil, tout comme on avait au sein de la même soirée Boucheron qui venait confier une vraie problématique autour du packaging, qui avait cette volonté de transformer de manière out of the box, pour le reprendre la phrase exacte, un packaging responsable, ou encore une start-up comme Circle qui est en pleine montée en puissance, qui avait cette volonté de collaborer, d'avoir un œil plus jeune, nouveau, sur des thématiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre, que ce soit au niveau de la brassière post-chirurgicale ou encore de l'Infinite Runner, de la basket circulaire infinie. Donc là, je vous ai donné trois exemples rapides, on en a eu beaucoup plus et c'était vraiment le choix reposait aux étudiants. Donc nous, on n'a pas voulu imposer, c'est les étudiants qui par affinité, volonté d'implication, appliquaient au projet ou encore pouvaient proposer eux-mêmes leur propre projet, puisqu'on avait des porteurs de projets aussi au sein du groupe. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et dans lorsqu'on a eu des projets donc en partenariat avec des marques, on pourra parler des porteurs projets au sein du groupe par la suite, mais lorsqu'il y a eu des partenariats, c'était vraiment une collaboration, enfin, bien au-delà du projet académique. En fait, on est sur des problématiques d'abord réelles, c'était des vrais projets au cœur de la stratégie de l'entreprise et même au niveau du centre de réfugiés, lorsqu'on parle d'une association, en fait, là, il y a eu vraiment cette volonté et aujourd'hui, l'association Reprise existe au sein de la commune. Les étudiants ont rencontré la mairie à plusieurs fois d'Antony. J'y suis allée aussi. C'est un vrai hub et là, le centre réfugiés maintenant est à quelque part un peu transformé avec cette association qui est finalement un centre de créativité au sein du centre où ceux qui avaient des savoir-faire de la couture évidemment participent, mais même maintenant au-delà, puisque on est sur le développement de workshops autour de la couture, autour de la matière, autour du textile, qui est finalement accessible à tous et qui crée une vraie effervescence positive au sein du centre dans un moment où il y avait finalement pas grand-chose qui se passait, notamment de par le COVID.
Et alors, en pratique, comment est-ce que ça se déroule ? Donc, à partir de cette soirée, vous définissez des problématiques, vous répartissez des groupes par affinité de sujet. Vous définissez, j'imagine, un programme, des follow-up. Comment ça se concrétise ?
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee,
you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Oui, bah là c'est on apprend en marchant aussi, c'était la première année, donc c'est vrai que bon, moi j'ai accompagné évidemment nos 15 projets de manière assez impliquée, mais là dès lors on avait besoin de compétences complémentaires, on a fait appel donc à la communauté alumni de l'IFM, donc on a eu beaucoup de mentors qui se sont impliqués, qui ont accompagner les projets, qui ont challengé, donc que ce soit d'ailleurs en France, mais même à l'étranger, on a eu des alumni de New York qui ont donné cette vision américaine du sujet qui était traité. Là, je pense notamment au sujet What Consumer Want. C'est une équipe qui a travaillé sur une étude vraiment de ce que le consommateur veut savoir sur le développement durable. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Bon, eux, ils ont pris le sujet à l'inverse et on dit, ben, qu'est-ce que lui veut entendre. Et donc, c'est vrai qu'on avait une alumnie de New York qui les a accompagnés dans cette étude. Et évidemment, gros apport des partenaires qui avaient proposé le sujet. Enfin, ils ont intégré les équipes directement en interne au sein des groupes ou des marques.
Et donc, à l'issue de cette année, donc le 31 mai de cette année scolaire, il y a une présentation officielle de l'aboutissement de chacun des projets avec un jury, c'est ça ?
Oui, c'est ça, avec un jury même exceptionnel, j'ai envie de dire, qui ont dédié une journée entière hein, de 9h30 à 17h30 pour écouter et partager avec nos étudiants leurs contributions. Donc c'est un jury académique parce qu'à l'issue de ce jury, il y a un diplôme à la clé. Mais c'était aussi une célébration, j'ai envie de dire, c'est une célébration du changement, une célébration du mouvement de la mode, de toutes ces contributions. Parce que c'est vrai que le projet, les projets à contribution, les étudiants devaient démontrer. Alors, on n'est vraiment pas dans le prospectif ici. Alors, ce qui est très bien aussi, on a d'autres programmes, d'autres approches qui traitent ce sujet un peu plus long terme. Mais là, dans le projet du certificat, on était sur une durée donc de 6 mois. On voulait du concret maintenant. Donc, les étudiants devaient démontrer qu'ils avaient contribué à la transformation de l'industrie maintenant. Et donc, c'était assez exceptionnel puisque pendant une journée complète, les 15 projets ont présenté comment ils ont changé le monde de la mode dans les derniers 6 mois. Donc, le jury, alors je les remercie encore, mais on passait le temps dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'échange avec les étudiants aussi. Et on a même, là, ça fait 2 semaines qu'on a fait le jury, il y a eu déjà des développements et des perspectives sur les projets à l'issue de ce jury. Donc, c'est extraordinaire.
Tu peux nous parler peut-être d'un ou deux exemples, une ou deux innovations qui vous ont bluffé?
Alors, on a un projet sur le lin qui est assez exceptionnel, l'équipe régénérative a développé un sweat 100% lin made in France. Alors, on se dit, oui, mais en fait, Victoire, je ne sais pas si tu sais, mais ça n'a jamais été fait.
Ah tricoter du lin, déjà, c'est quelque chose de pas courant. Et effectivement, je crois qu'ils ont développé un molleton, j'ai vu des photos.
Un molleton brossé 100% lin fait en France. Mm-hmm. Et donc, évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. On est soutenu par le CELC, par Safilin. Tout ça, c'était fait. Mais c'est vrai que dès le démarrage, donc ça, c'est un projet porté par un des étudiants du groupe qui a proposé. Il dit, écoute, Andréane, moi, je veux monter une marque qui régénère les sols, mais les gens aussi. Je veux mettre en avant autant les aspects environnementaux que sociaux et je veux travailler le lin. Ben, je dis, écoute, Joaquin, vas-y. Et moi, je suis habituellement assez sponsor en plus. Donc, Alice, une autre étudiante du groupe, a rejoint Joaquin pour le projet. Et en fait, ils ont poussé les murs, ils sont allés chercher les partenaires. On a cru en eux et ça s'est fait. Et on était assez heureux d'offrir à l'ensemble des étudiants et des membres du jury la première série de Sweat, de Molleton Brossé, 100% la Made in France, Let's Go Change the World, parce que bon, c'était le petit clin d'œil, c'est Sweat, Let's Go Change the World, mais de la marque régénérative. Donc d'ailleurs, la pré-vente au public sera lancée très prochainement, donc c'est un vrai projet, l'entreprise existe. Et on a ces partenariats, donc enfin je dis on, mais évidemment c'est l'équipe régénérative qui a mis en place ces partenariats réels qui se poursuivent bien au-delà du 31 mai.
Il n'y a pas que du produit ou du packaging, il y a aussi des projets beaucoup plus éducationnels. Je pense à la plateforme d'e-learning.
Oui, donc ça c'est vrai que c'était un projet donc, que l'on avait au sein de l'école et où des étudiants m'ont rejoint. J'allais dire à temps plein, mais c'était pas temps plein, mais avec un énorme investissement, puisqu'en fait, le certificat, c'est 35 étudiants. Donc, c'est vrai qu'on a, on avait cette volonté d'avoir un format très sélectif, puisqu'on voulait les accompagner pour qu'ils puissent vraiment progresser et avoir la capacité de prendre directement des postes en RSE à l'issue de ça avec une vraie légitimité. Et ça, ça peut se faire lorsqu'on a un accompagnement assez étroit, mais on avait cette demande quand même très forte, bien au-delà de ces 35 étudiants. Donc, on a décidé de développer un certificat en e-learning, et là en partenariat avec Kering, pour rayonner, en fait, pour toucher beaucoup plus large et de l'offrir à un public déjà en offre gratuitement au sein de l'ensemble de l'école. Donc dès lors que l'étudiant a une adresse IFM, a accès à ce 80 heures de contenu que l'on a fait évidemment avec beaucoup de partenaires, beaucoup de contributeurs de l'industrie. Et ce projet-là a vraiment une vocation d'éducation accessible au grand public, étudiants mais aussi professionnels qui souhaitent se former au développement durable dans toutes ses dimensions, j'ai envie de dire.
Et ce sera accessible sur FutureLearn, c'est ça?
Alors, c'est déjà accessible sur FutureLearn. Le premier round a été lancé le 17 mai. On aura un deuxième round dès l'automne pour ceux qui sont intéressés sur la plateforme FutureLearn. Ouais. Donc, le titre exact, c'est Shaping Fashion's Future.
Bon, tous les projets m'ont interpellé, mais deux que j'ai trouvé hyper innovants. Un qui portait sur la récupération de poils de chien pour en faire un nouveau type de fil. Et dans la thématique matière, un qui était beaucoup plus, théorique, mais qui s'intéressait finalement aux avantages et aux inconvénients du coton génétiquement modifié, donc dans un discours qui est pas habituel, puisqu'habituellement on prône plutôt le bio. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est la diversité des niveaux de réflexion et ou de concrétisation, de mise en œuvre des projets à l'issue de cette année, qui montre bien toute la complexité finalement de la transformation au sens large des entreprises.
Oui, effectivement, on a des projets de... les 15 sont tous différents les uns des autres. Et ça, ça s'est fait organiquement, enfin, ça s'est fait naturellement par le choix des étudiants, par l'appel de l'écosystème. Et je pense qu'il faut absolument laisser cette ouverture, puisque c'est ces projets qui nous montrent un peu... Enfin, Pascal Morand, durant le jury, a dit « c'est intéressant, on dirait la société de demain ». Et c'est vrai que lorsque Pascal a dit ça, j'ai dit « tu as raison ». Et c'est peut-être pas le rêve prémonitoire, mais on a cette vision un peu de ce qui s'en vient et des enjeux qu'on aura à traiter de manière probablement pas de manière plus complexe, mais enfin l'industrie fait face aujourd'hui à tous ces sujets, ça c'est certain, et là de l'avoir traité comme ça par l'appel des étudiants, enfin ça, comme je dis, ça s'est fait naturellement. C'est probablement très représentatif de ce que l'industrie va devoir adresser de manière beaucoup plus sérieuse. Alors c'est peut-être ça que comme ça je vais dire, de manière beaucoup plus sérieuse assez rapidement. les entreprises ont pris conscience, enfin j'espère, de la nécessité de cette transformation, mais de la compréhension de l'ensemble des enjeux. Je ne sais pas si le niveau de maturité est le même partout. Et c'est vrai que c'était très représentatif de beaucoup de problématiques. Alors, te parler des matériaux, on avait aussi des nouveaux business models, on était confrontés. C'est vrai que l'upcycling du produit fini, par exemple, est assez complexe à traiter, puisque en fait on va déconstruire la façon qui est quand même le poste de coût le plus important sur un vêtement. Donc et là donc cette façon devient notre matière première et on doit rajouter de la façon tout ça dans un modèle économique qui finalement ne répond plus aux enjeux, donc les coefficients multiplicateurs, donc d'arriver à développer un business model. Et ça, c'est ce que l'équipe Détox Ton Stock en collaboration avec Renaissance, l'association Renaissance, a fait. Et ces nouveaux business models, ces évolutions même de prise en compte des différents capitaux dans l'entreprise, là je pense au capital nature et au capital humain et social, je ne sais pas si toutes les entreprises ont aujourd'hui pris en compte, mais ça va venir. Et là, ce qui est assez formidable, c'est que lorsque ça va venir en entreprise, nos étudiants auront développé ces compétences-là ici avec nous. Donc,
Et alors justement, est-ce que d'un point de vue vraiment économique pur, vous avez planché sur la rentabilité de nouveaux modèles économiques qui passent beaucoup plus par l'usage, beaucoup moins par une logique de production ?
Oui. Donc c'est vrai que ça c'était remonté par Marie-Claire Daveux en disant que ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas que soit dans des projets un projet social ou un projet environnemental, mais il y avait toujours cet angle d'attaque économique qui était traité. Et ça, c'était une vraie volonté dans le pilotage des projets aussi. On les challengeait à dire, OK, bon, c'est très bien sur l'impact social, on le comprend bien, l'environnement, on comprend bien, mais c'est quoi l'impact économique? Comment ça se traduit? Quel est le mode de pilotage? Donc, les étudiants ont été challengés pour que ce soit d'ailleurs le plus concret et réaliste possible pour les entreprises. Donc, il y a eu vraiment cette réflexion réalité du système et est-ce que c'est viable et comment ces nouveaux modèles peuvent émerger aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que des marques ont contacté nos étudiants. Donc, on avance, en fait. Je ne sais pas si ça a fait émerger des questionnements ou des idées, mais en tout cas, les passerelles se forment.
Et donc, dans le jury, dans votre grille de lecture, vraiment cette mesure des achievements et ce degré de concrétisation potentielle faisait partie des critères de notation.
Oui, oui, tout à fait.
Et la propriété des projets, elle appartient à qui ?
Alors, ça dépend. Lorsque c'est une demande d'une marque, c'est la propriété des marques. Lorsqu'une marque a été créée, c'est le propriété. Donc, je pense à Régénérative, évidemment, c'est à Régénérative et non aux partenaires qui ont contribué. En revanche, Boucheron, la proposition de packaging qui était faite est propriété de Boucheron.
À quel degré tu penses les marques sont prêtes à accueillir justement ces idées, ces nouveaux modèles et ces différentes manières de créer de la rupture? Non pas comme des side projects, mais vraiment au sein d'une transformation à cœur. Parce qu'on peut se dire qu'un packaging, finalement, en fonction du pourcentage d'application sur le volume global de production de la marque, ça peut être une métamorphose comme une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que ces discours-là sont vraiment audibles à grande échelle ? La question est ouverte.
Je pense que il y a une question de niveau de maturité de l'entreprise. La prise en compte. Donc, certains, parmi les membres du jury, Riccardo Bellini, le CEO de Chloé. Chloé est en pleine transformation et le niveau de maturité est en pente très, très abrupte. On monte très rapidement et cette vision et cette compréhension du sujet, elle est portée par le CEO et portée et ensuite traduite au sein des équipes. Et je pense que certains sujets ont vraiment fait résonance. le feedback que l'on a eu des membres du jury était très positif et je pense qu'ils sont partis avec des idées plein la tête. J'espère que les projets ont aussi eu cette résonance au-delà de nos membres du jury. Et on est évidemment ouvert à travailler avec plein d'autres acteurs de l'industrie aux différentes propositions. En fait, on est très à l'écoute et ce programme se veut ancré dans l'industrie. En fait, on ne veut pas être justement des projets à part qui n'ont pas sens. C'est une vraie question de contribution, en fait. C'est que, d'une part, on doit tous avancer simultanément ensemble et l'académie, les étudiants vont intégrer l'industrie demain, mais en fait, on peut d'ores et déjà travailler ensemble et on l'a vu, donc ça a bien fonctionné et je suis convaincue que l'on doit continuer dans cette voie. Et là, on est ouvert à nombreuses problématiques et là, on le fait aujourd'hui, je te disais, on est en plein bootcamp, on le fait avec d'autres acteurs aussi, dans un mode de fonctionnement un peu différent. On est en semaine intensive, bootcamp dans le sens de semaine intensive de design sprint, de résolution de problèmes avec des membres de Paris Good Fashion pour résoudre des problématiques autour des thématiques remontées par les citoyens lors de la consultation citoyenne de mode responsable. Donc là, on a 5 jours, on a 15 étudiants qui planchent sur 5 problématiques complexes et cet après-midi, ils vont présenter donc aux différents membres concernés par la consultation. Notre motivation première, c'est de la transformer, notre industrie, parce qu'on en est passionné. Donc, on veut continuer à travailler dans cette industrie qui est passionnante, qui est créative, tout en la rendant plus vertueuse.
Qu'est-ce que tu penses, avec le regard que tu as et fort de ton expérience professionnelle, du rôle des marques et du rôle peut-être au sens plus large de l'industrie de la mode aujourd'hui en 2021.
Pour moi, la mode a différents rôles. Donc un rôle premièrement de se transformer elle-même, mais au-delà, je pense qu'elle doit inspirer. C'est l'industrie de la mode a toujours été contributrice à des grands changements sociétaux. Et là, c'est au-delà de la société, c'est notre planète qui en a besoin. Et je pense qu'elle a notre industrie, au sens large, a tout à fait la capacité de mener, d'inspirer et d'apporter ce changement beaucoup plus large, que ce soit sur nos modes de consommation, nos modes de réflexion, de la manière dont on gère les affaires, enfin le business. Et j'espère qu'on pourra passer de celle qui est un peu visée comme une industrie peu vertueuse à celle qui inspire les autres et qui a su se transformer pour alimenter les autres.
Alors, j'ai une question qui est un peu celle de l'avocat du diable, mais pour moi, la création d'un certificat à développement durable est indispensable et je trouve ça génial. Je trouve cependant que c'est quand même faire de cette discipline quelque chose de sectorisé qui, par définition, concerne des gens intéressés par le sujet et pas la masse des étudiants. Or, pour opérer le changement, il faut que tout le monde s'y intéresse, tu l'as dit. J'imagine que c'est peut-être un projet pilote et puis la construction d'autre chose. Quel est ton sentiment sur cette question et peut-être quelle est ta vision de cet enseignement dans les années à venir ?
Il y a deux choses. Donc, il y a tous les enseignements qui concernent l'ensemble de l'école et ça ne va que progresser. Et plus on va avancer, plus il va y en avoir et plus ça va s'intégrer dans l'ensemble des matières, des options, des programmes. Ça sera diffus. Le certificat, pour moi, restera nécessaire, est nécessaire aujourd'hui et restera nécessaire. Pourquoi ? Disons que c'est le levier qui va porter une longueur d'avance. C'est toujours un cran plus loin. Ça l'est aujourd'hui, mais ça le sera demain parce que, en fait, ce que l'on va faire au sein de l'ensemble des programmes, et on garde, nous, cette volonté, hein, on parle toujours de former l'ensemble de nos étudiants, donc aujourd'hui, nos 1000 étudiants au développement durable. Mais je reste convaincue qu'on a besoin d'avoir aussi des acteurs dans l'industrie qui ont un coup d'avance, qui vont plus loin, parce qu'ils ont des motivations, parce qu'ils ont des compétences, des habiletés aussi sur certains sujets, vont développer. Et c'est un peu comme, enfin, à quelque part, c'est aussi représentatif de ce que je pense doit se mener aussi dans l'industrie. C'est-à-dire que le développement durable, aujourd'hui, à certains endroits, c'est vraiment porté par la RSE ou l'équipe développement durable, comme la transformation digitale. Et c'était un peu de la même façon il y a une dizaine d'années. C'était un département mené par le Digital Chief Officer. Bon, aujourd'hui, du digital, on en a partout dans l'industrie. Bon, le développement durable, j'espère que ça s'infusera comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on forme nos étudiants, parce que nos étudiants vont alimenter l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais on aura toujours besoin, parce que là, d'autant plus qu'on est sur des cycles très longs de changement, on a besoin d'avoir ces acteurs qui ont un coup d'avance, qui est sur le développement durable, qui font le lien avec l'ensemble des parties prenantes, qui ont cette vision du coup d'après, du plan à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans peut-être. Donc, de la même façon, je pense en tout cas qu'on va faire perdurer des programmes comme ça. Alors, est-ce que ça s'appellera Fashion Sustainability ou ça évoluera sur une vision de perspective, mais je reste convaincue que c'est nécessaire et essentiel, même à terme, et ce, pour l'école, mais aussi pour l'industrie et les entreprises.
Et j'ai une dernière question, de par ton réseau et peut-être tes outils de veille, est-ce que tu as notion de l'existence d'outils un peu équivalents ou de méthodes d'enseignement ou d'implication des marques équivalents en Asie?
Bah, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas retournée en Chine, mais c'est vrai que Kering a organisé tout un événement, un concours auprès des startups chinoises. Et l'engouement de ce concours et le niveau de proposition autour du développement durable était très fort. De ce que je vois et ce que je pressens, c'est que ça peut aller très vite et la perception du sujet, ou en tout cas la prise en compte du sujet, peut monter en niveau de maturité très rapidement.
Je suis ravie de finir sur cette excellente nouvelle. Tu peux nous rappeler simplement, on a la possibilité de voir donc, le synopsis des projets sur YouTube, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, je vais te partager tous les liens. Donc,
on mettra les liens, oui.
Découvrir les 15 projets de nos étudiants de la promo 2021 du certificat Fashion Sustainability de l'IFM Kering. Et avec grand plaisir pour découvrir de nouveaux projets, de nouvelles opportunités pour nos étudiants l'année prochaine.
Et les inscriptions sont ouvertes à partir de quand ?
Alors, pour l'IFM, ça se clôturera bientôt. Et puis, pour le certificat, la prochaine promo sera recrutée donc auprès de nos étudiants de l'année prochaine à partir de septembre.
Merci beaucoup, Andréane.
Merci, Victoire.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.